d'Europe.
Et mon invité, c'est la spécialiste histoire et patrimoine ici à la rédaction d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Merci de venir nous voir dans le 5-7 ce matin, en ce jour de bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, anniversaire qu'Emmanuel Macron va marquer tout à l'heure. Mais grâce à vous, Laure, ce matin, on va apprendre des choses sur Napoléon. Vous publiez un podcast Europe 1 en 3 épisodes, Napoléon, cet inconnu. Pourtant, il y en a des livres, des écrits sur Napoléon. Il y a encore des choses qu'on ne sait pas ?
Oui, on a voulu finalement faire ce choix avec Sébastien Guidis aussi qui réalise ce podcast, ce choix d'axer Napoléon, en tout cas de prendre un visage qu'on ne trouve pas dans les livres d'histoire. Donc pas le Napoléon guerrier, le Napoléon qu'on connaît, mais plutôt à travers des anecdotes dans différents domaines, essayer de donner une autre vision finalement du personnage, peut-être un peu différente et qui éclaire aussi qui était Napoléon.
Et vous le racontez donc en 3 épisodes d'une dizaine de minutes environ. Comment vous avez travaillé pour aller chercher ces histoires derrière la grande histoire ?
Alors je suis allée déjà dans les archives nationales, on m'a ouvert les portes et je remercie ceux qui ont accepté de le faire. J'ai pu accéder à des documents d'époque de Napoléon et puis aussi en allant sur certains lieux qui lui sont chers, le château de Malmaison en région parisienne où il a vécu avec Joséphine, en rencontrant aussi un féru d'histoire qui a découvert il y a quelques années la longue vue de Napoléon qui dormait dans les réserves du musée de Carcassonne, par exemple. Donc ce podcast est à la fois un mélange de reportages, d'interviews, d'archives européennes aussi précieuses et puis de scènes qu'on a reconstituées et qui traduisent l'énorme épopée de Napoléon Bonaparte.
Et c'est un vrai récit qui est extrêmement bien produit et réalisé, vous le disiez, par Sébastien Guidis. On va en écouter quelques extraits avec d'abord parmi les choses qu'on apprend, on découvre un Napoléon plutôt coquet, raffiné même quand il part à la guerre.
Mais oui, vous avez raison. En fait, Napoléon ne partait jamais faire la guerre sans se parfumer des pieds à la tête d'eau de Cologne. En fait, c'est plutôt par souci d'hygiène qu'il faisait ça. Il avait contracté une maladie, la gale, pendant le siège de Toulon. Et par souci d'hygiène et par peur de réattraper cette maladie, finalement, il prenait des bains régulièrement. Il demandait à avoir une baignoire portative, en bivouac même. Et puis justement, il se parfumait des pieds à la tête, oui.
On va écouter l'extrait du récit.
La guerre, nous y voilà. Lorsque Napoléon se prépare pour combattre, il affûte ses armes, s'habille, fixe son sobre bicorne noir et se parfume des pieds à la tête, détaille l'historienne du parfum Elisabeth de Feydeau.
Qu'il a un amour fou pour l'eau de Cologne et de manière générale pour l'hygiène. Par rapport à tous ces maréchaux d'Empire, croyez-moi, ça faisait la différence. Cette eau de Cologne aussi, qu'il buvait, il mettait ce flacon dans ses bottes. Et comme ça, il avait toujours de l'eau de Cologne sur lui. Vous savez, c'était un élixir, l'eau de Cologne. Donc finalement, l'élixir, on le boit comme un médicament. Et quand on la sent, si vous voulez, il y a un côté d'abord très agreste, je vais vous la faire sentir. Donc avec de la lavande, avec également du romarin. Et puis ensuite, on a tout ce côté très frais, donc bergamote, limette, cédra, qui va donner vraiment une tonicité. Ça ne devait pas être mauvais, si vous voulez, c'était un bon stimulant. Et c'était une des habitudes de Napoléon Ier, qui quand même en utilisait en moyenne 40 litres par mois.
40 litres d'eau de Cologne par mois, voilà quelque chose qu'on apprend sur Napoléon dans ce podcast que vous racontez, Laure d'Autriche. Le guerrier raffiné donc, le grand organisateur de l'État, ça on le sait, avec le code civil. Mais le bac aussi, c'est Napoléon.
Oui, c'est lui qui a effectivement instauré le baccalauréat en 1808. Et alors, évidemment, il ne ressemblait pas du tout à ce qu'il est aujourd'hui. D'ailleurs, il était destiné finalement à l'élite. Napoléon, en instaurant le bac, veut encadrer les populations. Il veut former des enseignants. Il veut former l'élite, les gens qui seront finalement les garants de l'État, qui seront les cadres de l'Empire. C'est vraiment à ça que sert le bac quand Napoléon le met en place.
Dans les archives nationales, le nom des premiers lauréats est inscrit à la plume sur des bouts de parchemin, comme sur ce document de 1810 présenté par Cécile Fabrice, conservatrice du patrimoine.
Nous sommes donc à l'Université impériale, diplôme de bachelier S-lettres au nom de Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie et protecteur de la Confédération du Rhin. Ce baccalauréat, il permet d'entrer à la faculté, mais il est passé sur des épreuves orales uniquement au moment de la mise en place en 1808.
Ils sont très peu nombreux, les élèves qui passent le bac dans ces années-là.
Les bacheliers S-Lettres, ils sont 1300. Les bacheliers S-Sciences, c'est encore moins. On est sur 38 à peu près, uniquement des garçons. Les études au lycée sont payantes. Par conséquent, nécessité de moyens fait que le baccalauréat ne s'adresse pas à tous.
On paye aussi pour passer ces épreuves, ces examens.
Tout à fait. Alors, le niveau est difficile à juger puisque nous n'avons pas de copie, puisqu'on est sur un examen oral, mais on est sur un niveau d'enseignement élevé. Pour autant, c'est inhérent à l'histoire du système éducatif et des enseignants. Dès le milieu du 19e, on trouve des réformes pour limiter la baisse du niveau. Ça, malheureusement, c'est aussi ancien que le système éducatif. N'est-ce pas, Aristote, déjà, se plaignait du niveau des élèves d'aujourd'hui qui n'est plus celui d'avant.
Joseph-Pierre Lefebvre.
Oui.
Vous êtes ici pour l'épreuve de latin à l'oral, bien évidemment. Tirez une boule au sort.
Vous voyez, Sébastien, on entend là quelqu'un qui va traduire un texte en latin.
Ouais.
Et ça faisait partie des épreuves orales de l'époque, grec, latin, arithmétique, géométrie. Voilà, tout ça à l'oral devant un examinateur finalement.
Napoléon, cet inconnu, vous retrouvez ce podcast dès aujourd'hui sur europe1.fr. On va terminer avec le regard des personnalités politiques parce qu'il a toujours fasciné. Napoléon, il fascine peut-être toujours les hommes de pouvoir. Tiens, par exemple, Valéry Giscard d'Estaing, lui, était allé sur les traces de Napoléon, sur les traces de la bataille d'Austerlitz. Écoutez-le.
Moi, je suis allé visiter, d'ailleurs, je vous recommande, si vous avez l'occasion de le faire, d'aller visiter le champ de bataille d'Austerlitz, qui est la plus grande victoire de Napoléon, en fait, 1805. Et il était incroyable, il part au début, il était à un certain endroit, dans le champ de bataille, au-dessus du champ de bataille, il part au galop, il traverse pratiquement l'armée ennemie, il va se poster de l'autre côté, il donne des ordres, ainsi de suite.
Oui, ça change tout, effectivement.
Oui, ça change tout.
À plusieurs reprises, Napoléon a défié la mort. Mais il est resté debout au milieu des tempêtes, capable de transformer une situation difficile en une chance insoupçonnée. Vaincu, il abdique pourtant en 1814 et fait un peu plus tard ses adieux à ses soldats au château de Fontainebleau, dans la cour du Cheval Blanc.
Soldats, rassemblement !
Rassemblement !
Allez, allez, allez !
Présentez !
Arme ! Soldats de ma vieille garde, je vous fais mes adieux. Depuis 20 ans, je vous ai trouvé constamment sur le chemin de l'honneur et de la gloire. Avec des hommes tels que vous, notre cause n'était pas perdue. Mais la guerre était interminable. Vous, mes amis, continuez de servir la France. Son bonheur était mon unique pensée. Adieu, mes enfants. Je voudrais tous vous presser contre mon cœur. Que j'embrasse au moins votre drapeau.
La garde d'honneur au drapeau.
L'empire qu'il a construit, Napoléon l'a détruit peu à peu. Son ego a fini par le perdre. Physiquement, il est devenu gros et imbu de sa personne.
Napoléon, cet inconnu, podcast qui sera diffusé dans son intégralité ce soir dans un 18-20 spécial Europe Soir avec Julien Bugier et que vous retrouvez sur europe1.fr sur la page d'accueil si vous voulez d'ores et déjà l'écouter. Production Europe 1 Studio, réalisée par Sébastien Guidis et racontée par vous, Lord d'Autriche. Merci d'être passé nous voir ce matin.
Bonne journée.
Bonne journée.